Le journal présenté par Maxime Fayolle.
Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy voulait préserver l'unité de la droite. Hier, une consigne apparemment mal reçue du côté de François Fillon. L'ancien Premier ministre a fait sa rentrée politique à Sablé-sur-Sarthe cet après-midi et il en a profité pour tacler l'ancien chef de l'État. Les syndicats agricoles promettent une mobilisation nationale face à Lactalis demain. Après une semaine de négociations, les éleveurs n'ont toujours pas obtenu satisfaction sur le prix du lait. Ils vont donc passer à la vitesse supérieure. Les négociations du traité transatlantique sont-elles sur le point d'échouer? Le vice-chancelier allemand l'affirme aujourd'hui à une chaîne de télévision. Les négociations doivent se poursuivre jusqu'en janvier, mais le traité a du plomb dans l'aile, nous dira Pierre Benazet. Et retour en Italie, à Amatrice, lieu du séisme qui a tué plus de 290 personnes mercredi dernier. Place aujourd'hui à l'enquête. Comment autant de bâtiments ont-ils pu s'écrouler? Des questions qui mettent ou remettent à jour certains dossiers de corruption. Après les deux ténors de la primaire à droite hier, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, aujourd'hui c'était au tour de François Fillon de faire sa rentrée politique. L'ancien Premier ministre a réuni plus de 3000 personnes à Sablé-sur-Sarthe. François Fillon, actuel quatrième homme dans les sondages, a fait voler en éclats le principe énoncé par Nicolas Sarkozy hier, préserver l'unité de la famille, Christine Moncla.
Personne n'a rassemblé autant que moi, lance un François Fillon triomphant dans le très chic parc du château de Sablé-sur-Sarthe, sa ville. 3000 participants, 70 parlementaires, François Fillon a gagné la bataille des parrainages et de la mobilisation, mais il lui faut maintenant exister dans le duel annoncé Sarkozy-Juppé. Alors pour se distinguer, il sort les poings pour frapper sur son ancien président. Moi je ne suis pas un comédien, pas un clown, moi je ne varie pas, je suis gaulliste depuis toujours, sous-entendu pas comme d'autres, et d'ajouter, fier de lui, qui imaginerait une seconde le général de Gaulle mis en examen? Offensif, il balaie les mauvais sondages en parlant de son projet « Faire pour la France ». Patriotique, libéral et autoritaire, Fillon déroule sa généalogie France profonde, ses racines chrétiennes, son concept de redressement national par la liberté et la morale, retour de l'uniforme à l'école, passage à la paille de fer de la fonction publique, contrôle strict de l'immigration et du regroupement familial, le retour de l'emploi aussi grâce à la libération de l'économie. Mais même s'il s'en défend, il ne peut échapper au débat du moment sur l'identité. La sienne n'est pas heureuse comme celle de Juppé, ni crispée comme celle de Sarkozy. L'identité par Fillon, c'est la souveraineté économique, politique et intellectuelle de la France, manière de glisser sur l'islam qu'il veut conformer aux règles de la République et cela sans aucune négociation possible. Le public est ravi, beaucoup de militants de l'Ouest de la France sont là, sous un soleil de plomb. Ils y croient, ils vont partir en campagne pour élargir au maximum le corps électoral de la primaire de novembre, car l'équipe de François Fillon pense en effet qu'à 3 millions de votants, tout est possible.
Christine Moncla et autre personnalité politique qui a fait sa rentrée aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Plus de 2500 militants ont suivi son discours à Toulouse. Il a réaffirmé sa distance avec les autres composantes du Front de Gauche. Jean-Luc Mélenchon a aussi affirmé qu'il était loin d'avoir les 500 parrainages requis pour se présenter à l'élection présidentielle. Il en aurait 200 pour le moment, tout en assurant qu'il irait jusqu'au bout. Après une semaine de négociations sans issue, les producteurs de lait veulent à nouveau faire monter la pression sur Lactalis. La FNSEA, le FNPL et les jeunes agriculteurs ont annoncé une mobilisation nationale demain pour forcer l'industriel à augmenter son prix d'achat. Le conflit se durcit, mais un accord n'est pas encore exclu, selon Thierry Roquefeuille, le président de la Fédération nationale des producteurs de lait.
Je n'ai pas entendu l'entreprise Lactalis dire « je ne discuterai plus avec un producteur ». Donc tant que l'entreprise n'a pas dit ça, ça veut dire que la porte est ouverte. Mais on sait très bien qu'il y a un bras de fer. Ils pensent peut-être avoir gagné avec le fait que l'aval est élevé. Ce qui est dit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le cas. Donc demain, on a espoir encore qu'il y ait des signes de données par l'entreprise pour qu'il y ait ce genre de choses qui soient possibles. Donc sinon, bien sûr, que tout le monde est convaincu que le monde national est complètement nécessaire et tout le monde nous le demande. Ce n'est pas uniquement une volonté de responsable de faire des choses, c'est le terrain nous demande ça. Il y a des choses qui vont commencer demain et qui vont peut-être s'arrêter si l'entreprise fait des signes. C'est malgré tout le souhait de tout le monde. Ce n'est pas casser Lactalis pour casser Lactalis. L'entreprise Lactalis doit comprendre que les producteurs ont envie de trouver une solution, mais pas à n'importe quel prix dans le contexte économique qui lui permet de le faire aujourd'hui. On n'est pas en train de demander quelque chose d'exceptionnel à l'entreprise Lactalis. La pression, on l'a tous, quoi. Plus les choses se régleront vite, mieux ça sera pour tout le monde, pour les producteurs, pour l'entreprise, pour les consommateurs, pour la distribution, parce que demain, l'ampleur nationale va faire que tout le monde va être touché. Mais nous, on saura arrêter les actions s'il y a une issue favorable à la négociation.
Thierry Roquefeuille, le président de la Fédération nationale des producteurs de lait, joint par Mathieu Péris. Européens et Américains sont-ils sur le point d'abandonner le projet de traité transatlantique? La question se pose au vu des déclarations du vice-chancelier allemand aujourd'hui, Sigmar Gabriel. Il déclare à une chaîne de télévision allemande que les négociations ont, je cite, « de facto échoué ». Nous ne voulions pas nous soumettre aux exigences américaines, affirme le ministre de l'économie d'Angela Merkel. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Maxime.
Ces déclarations ne sont pas de bon augure pour l'avenir de ce traité transatlantique.
Effectivement, mais les déclarations de Sigmar Gabriel sont peut-être annonciatrices de ce qu'a la campagne électorale allemande de 2017. Elles n'en reflètent pas moins l'état des négociations euro-américaines. Depuis le début, l'avenir a eu du mal à être souriant pour le futur TTIP, acronyme de son nom anglais, traité pour l'investissement et le commerce. Ce futur traité a été rapidement voué aux gémonies par une frange importante de l'opinion européenne, de la droite souverainiste à la gauche antilibérale. Mais l'attitude des négociateurs eux-mêmes a rendu chaotique le chemin des négociations. Il y a eu d'abord les difficultés pour les 28 États membres à s'accorder sur le mandat de négociation à confier à la Commission européenne, par exemple sur la question de l'exception culturelle. Il y a eu ensuite l'attitude des négociateurs, avec en particulier une violente dénonciation par les députés européens de l'impossibilité de consulter les documents de négociation, autrement qu'aux conditions drastiques fixées par les États-Unis. Et désormais, le manque de projets tangibles, de progrès tangibles, la perspective de la fin du mandat de Barack Obama qui avait préconisé ce traité transatlantique, les incertitudes commerciales liées au Brexit apparaissent comme autant d'éléments annonciateurs d'un échec des négociations du TTIP, comme lors des deux précédentes grandes tentatives de traité transatlantique.
Pierre Benazet. Au Gabon, les résultats de l'élection présidentielle ne sont attendus que mardi. Pourtant, aujourd'hui, déjà le principal opposant d'Ali Bongo, le président sortant, s'est déclaré vainqueur à peine 24 heures après la fin du vote. Il s'agit, Valérie Crova, de l'ancien président de l'Union africaine, Jean-Ping.
Je suis l'élu et c'est par ces paroles que Jean-Ping a commenté devant ses militants les résultats de l'élection qui s'est tenue hier, des résultats qui ne sont pas officiels, puisque seul le ministère de l'Intérieur est en mesure de les proclamer après validation par la CENAP, la commission électorale. Jean-Ping, ancien ministre des Affaires étrangères, se base donc sur des tendances générales. Son adversaire Ali Bongo a fait de même dès hier soir par la voix de son porte-parole en se déclarant en route pour un deuxième mandat. Les deux camps se sont par ailleurs accusés mutuellement de fraude. Cela fait partie du jeu, un jeu dangereux qui risque d'attiser les tensions dans un pays où il suffit d'une étincelle pour que la situation tourne à l'émeute, comme c'est souvent le cas en Afrique. Les rues de la capitale gabonaise sont d'ailleurs restées quasiment désertes aujourd'hui. Chacun garde en mémoire les violences qui ont suivi la victoire controversée d'Ali Bongo en 2009. Les habitants de Libreville ont fait des réserves de nourriture au cas où ils ne pourraient plus sortir de chez eux. Des commerçants ont baissé leurs rideaux de peur de pillage et l'ambassade de France recommande à ses ressortissants installés au Gabon d'éviter de se déplacer dans l'attente des résultats qui devraient être annoncés en principe mardi. Rien de très rassurant donc si aucun des deux candidats n'accepte le verdict des urnes.
Précision de Valérie Crova. En Italie, l'enquête débute après le séisme d'Amatrice qui a coûté la vie à près de 300 personnes et plusieurs questions se posent déjà. Comment autant de bâtiments ont-ils pu s'écrouler dans une zone connue pour son risque sismique? De parquets sont saisis de l'enquête, mais aussi l'autorité nationale anticorruption, car ces effondrements pourraient bien cacher des cas de corruption, Mathilde Imberti.
Un bâtiment qui respecte les normes antisismiques se fissure mais ne s'écroule pas. Ainsi s'exprime Franco Roberti, procureur national antimafia, dans les colonnes du quotidien La Repubblica. Ce magistrat qui démonta les mécanismes mafieux après le séisme dans la région de l'Irpigne en 1980 estime que les risques d'infiltration sont encore présents aujourd'hui. L'autorité nationale anticorruption indique de son côté qu'elle enquêtera sur les constructions menées dans les communes les plus touchées par le séisme. La commune d'Amatrice en particulier dans le viseur avec le cas emblématique de cette école. Rénovée en 2012 et pourtant à terre. La presse italienne révèle que la rénovation de l'école était incomplète. Les travaux supplémentaires qui auraient dû être menés ont été attribués via appel d'offres l'an dernier à une société qui fait déjà l'objet d'une enquête suite au séisme de l'Aquila. Enfin, la commune d'Amatrice n'aurait pas mis en place les contrôles nécessaires. Le maire était pourtant parfaitement conscient du risque très élevé. C'est écrit noir sur blanc, toujours selon La Repubblica, sur un plan antisismique rédigé il y a 4 ans.
Mathilde Imberti. La météo de demain lundi, le ciel bleu n'est plus qu'un lointain souvenir. Prévoyez de la grisaille et quelques gouttes de pluie sur les trois quarts du pays. Seule la Côte d'Azur et la Corse auront le privilège d'avoir un soleil franc. Les températures 20 à Paris, 24 à Lyon et maximum de 30 degrés à Nice. C'est la fin de cette édition réalisée et pour la dernière fois par Meta Chiteya qui s'en va pour de nouvelles aventures.